L'aime. L'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Magazine qui plonge vos oreilles dans le Finistère. Là vraiment, ce sera le cas dans ce LEM, ce mardi souvent c'est science. Savez-vous que Brest vient d'être nommée ambassadrice de l'Union européenne pour la science en 2026, aux côtés des villes de Kiel et Split ? On va suivre ça de près quand on aura des éléments plus précis. Aujourd'hui donc, comme souvent ici, la science prend la direction de l'océan. Notre invité est plutôt archiviste, Ali Frémer, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Il a créé le service archives et patrimoine intellectuel. Il en fait parfois des publications, comme celle qui nous intéresse aujourd'hui et qui a pour titre « Biologiste de la mer, Lucien Laubier, la vie dans les grands fonds ». C'est édité par Locus Solus, qu'on connaît bien sur cette antenne. L'auteur, notre invité, c'est Gilles Chatry. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va commencer par le contexte avant de parler de Lucien Laubier, puisque c'est quand même lui le héros du jour. L'océanographie française, puisque on disait déjà océanographie. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit point de vocabulaire sur océanographie, océanologie? Est-ce que c'est différent? C'est la même chose?
Alors voilà, au départ, c'était l'océanographie, depuis notamment le 19e siècle, et puis bien avant d'ailleurs. Et au démarrage du CNEXO, vous savez, dont la première pierre a été posée le 17 décembre 1968 à Brest.
Alors le CNEXO, oui.
Le CNEXO, créé en 1967, Yves Laprairie, le directeur général, décide de créer un centre en province. Donc il y avait plusieurs villes, Brest était choisi, voilà, vous savez, à Plouzané. Voilà, donc création, et alors c'est à cette époque...
Ça voulait dire quoi? Centre national d'exploitation de l'océan, c'est ça?
Tout à fait, CNEXO. Des océans. Centre national d'exploitation des océans, CNEXO, et puis donc il a fondé le COB à Brest, c'était le Centre océanologique de Bretagne.
Ah, c'était océanologique?
Océanologique.
Ah, voilà, donc le mot existait déjà.
Voilà, à partir de cette époque.
Et donc aujourd'hui on dit plutôt océanologie que océanographie?
Tout à fait. On dit plutôt océanologie pour désigner la science des océans, mais le terme océanographie est toujours utilisé dans le domaine de la flotte et des bateaux. Alors on parle toujours de la flotte océanographique, voilà, et des navires océanographiques. Mais pour le reste, en principe, c'est l'océanologie.
Quand il y a de la science. Et alors le CNEXO, donc c'est l'ancêtre de l'Ifremer, hein, on peut le dire. Hein, c'est clairement ça. Hein.
Tout à fait. Tout à fait. Le CNEXO, c'est l'ancêtre de l'Ifremer qui a fusionné en 1984. 5 juin 1984, l'Ifremer est né de la fusion du CNEXO donc, et de l'ISTPM, l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes.
Qui était où alors cet ISTPM?
Alors l'ISTPM, il était à Nantes, il avait été délocalisé de Paris depuis 1969.
Et alors le COB, Centre océanologique brestois, c'est ça?
De Bretagne.
De Bretagne, existe toujours en tant que tel?
Bien sûr, c'est toujours le COB.
Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Parce que moi, j'avoue, je connais très mal cet institut.
Alors aujourd'hui, le COB, en fait, est le plus grand centre, en tout cas celui où il y a le plus de monde à l'Ifremer. Et puis, depuis le 1er janvier 2019, c'est le siège de l'Ifremer. C'est que le siège était, installé depuis le 1er janvier 2019 à Brest. Voilà, et donc il y a aujourd'hui environ 900 personnels, et ça en fait le plus grand centre de l'Ifremer qui a 5 centres. Il y a aussi Nantes, Toulon, Boulogne, et puis le centre du Pacifique, le COP, dont peut-être on va parler après, parce que ouais. Lucien Laubier s'en est occupé, il est dans les fondateurs un peu. Voilà, le COP à Tahiti.
Et c'est tentaculaire tout ça en fait, l'Ifremer. Enfin, pourquoi est-ce qu'il y a un COP, distinct de l'Ifremer en fait, quelque part?
Le COB n'est pas distinct de l'Ifremer, il fait partie de l'Ifremer. C'est un des 5 centres de l'Ifremer, voilà. Et créé, ben c'est vrai, depuis le début du CNEXO. L'Ifremer, quand, en 1984, a fait suite au CNEXO. Il en a gardé la structure, c'est-à-dire les directions, les différentes directions. Et puis le PDG, c'était déjà Yves Sillard qui avait préparé l'Ifremer. Il est resté PDG de l'Ifremer, président, directeur général de l'Ifremer, voilà. Et donc, on peut dire que l'Ifremer a pris la suite du CNEXO.
Ah, comment est-ce que le CNEXO et tous ces organismes-là, finalement, sont nés dans l'idée de la science, de faire de la science sur l'océan, ou plutôt de l'exploitation économique?
Alors, au départ, c'est vrai, le CNEXO a été créé pour développer les océans au niveau de l'industrie, donc pour travailler avec des industriels. Par exemple, il y a eu beaucoup de travaux sur les plateformes pétrolières au départ, donc beaucoup de travaux avec l'IFP notamment, l'Institut français du pétrole, et d'autres, alors les nœuds du polymétallique, on peut les mettre aussi dans une volonté d'exploiter l'océan, vraiment. Hein, et,
de toute façon, alors, c'était dans le nom, CNEXO.
Voilà. C'était vraiment l'exploitation au départ, ce qui a changé aujourd'hui, bien sûr. Je pense c'est pour ça que vous me posez les questions. On est plus dans l'exploration aujourd'hui que dans l'exploitation. Voilà, il y a eu des décisions dernièrement qui vont un petit peu contre cette exploitation parce qu'on risque d'abîmer ces écosystèmes.
On l'a déjà un peu commencé d'ailleurs.
Voilà, on pensait qu'il n'y avait rien au fond de l'océan. Si, il y a de la vie, notamment, ouais. Alors on peut en parler, les sources hydrothermales qui étaient vraiment la spécialité de Lucien Loubier.
Oui, voilà donc tout à fait. C'était un biologiste.
Il y a des merveilles au fond de l'océan, il y a des richesses, il y a des terres rares aussi, il y a des métaux, il y a beaucoup de choses.
Et en fait, on s'est dit, enfin, les scientifiques étaient là dès le départ, j'imagine, dans le CNEXO quand même. Il y avait des scientifiques de l'océan dès le départ.
Oui, tout à fait, oui. Yves Laprairie, alors, a souhaité qu'il y ait deux grands scientifiques. Il y a deux grands scientifiques qui étaient les piliers du CNEXO au début. C'était justement Lucien Loubier pour la biologie et puis Xavier Le Pichon pour la géophysique, qui revenait des États-Unis, qui était spécialiste de la tectonique des plaques. Voilà, et donc ils ont été les piliers, les deux pionniers et les grands scientifiques. Il y avait bien sûr d'autres chercheurs avec eux, mais eux étaient meneurs d'équipe, meneurs de campagne. On parle de la campagne Nord-Atlante dans le livre. Voilà, cette campagne Nord-Atlante, et bien Xavier Le Pichon et Lucien Loubier ont été tour à tour chefs de mission.
Et la biologie reste vraiment une science très dominante encore aujourd'hui hein, dans l'océanologie, j'ai l'impression, non ?
Oui, on peut dire ça. On peut dire que c'est vraiment très important. Dominante, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de disciplines, en fait. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on doit le fait du rayonnement de cette biologie, en partie à Lucien Loubier, qui a vraiment... Parce qu'au début, on était plutôt sur les géosciences, et la biologie, notamment...
Mais oui, s'il était question de pétrole, j'imagine que
les oui, géosciences voilà, étaient importantes. Le pétrole, c'était plutôt de la géologie, parce qu'il fallait créer des... comment dire, des structures et comment dire qu'elles soient bien solides dans le sédiment, n'est-ce pas ? Donc c'est plutôt de la géologie. Mmh. Voilà, la biologie, c'était moins important dans ce cadre-là. Mais après, quand on a notamment, à la fin des années 70, découvert les sources hydrothermales, voilà, sous-marines, là, quand on a vu toutes ces espèces qui grouillaient, des crevettes sur ces fumeurs, sont des volcans
sous-marins. Les fumeurs noires.
Les fumeurs noires ou autres.
On a fait une émission récente hein, sur les sources hydrothermales, donc vous pouvez la réécouter.
D'accord.
Je dis ça pour les auditeurs. Et d'accord, donc lui, c'est lui, Lucien Loubier, puisqu'on en arrive à lui. Il était donc biologiste. Quelle était sa spécialité ? Vous l'avez dit, c'était ça, les sources hydrothermales, entre autres ou...
Oui, alors, sa spécialité, c'était donc l'écologie marine. La biologie marine.
Vaste sujet.
Voilà, qu'il a développé, ce qui a fait dire à Michel Glemarek, qui a signé la préface du livre, hein, Michel Glemarek, professeur à l'UBO, à l'IEM à l'époque, l'Institut d'études marines, qu'avec Lucien Loubier, on était passé de la biologie marine à l'océanographie biologique. Voilà, c'est beau. C'est dire l'évolution que l'on doit à Lucien Loubier en matière de biologie.
Et donc, quel a été son parcours de biologiste, stricto sensu, en fait ?
Alors, Lucien Loubier n'était pas parti dans ce domaine-là, puisqu'il avait fait un bac de philosophie à Paris, dans des lycées renommés, Janson de Sailly. Bon.
Il était fils de philosophe, c'est ça hein,
oui, ouais, oui, tout à fait. Vous avez bien lu le livre.
J'ai pas tout lu, mais j'ai vu ça.
Voilà, il était fils de philosophe. Voilà, il était dans des lycées renommés, Charlemagne, Janson de Sailly. Bon. Et puis, il n'était pas parti du tout dans ce domaine-là, mais ce qui lui a donné une de ses grandes qualités, c'était une facilité vraiment et une vraiment très grande compétence à écrire. Il écrit des livres, etc. Puisqu'il était parti plutôt dans un domaine littéraire. Et après, par contre, il a changé depuis adolescence, quand je raconte dans le livre, ce qu'il m'a dit lui-même, quand je l'ai interviewé, qu'il avait une... comment dire, il aimait bien rapporter des espèces qu'il trouvait en Normandie, où il allait en vacances avec ses parents, à Paris. pour les mettre dans des aquariums, etc. Donc il a vraiment une affinité pour les espèces.
Une fibre
les espèces,
naturaliste.
Aquatiques.
Ouais. Petite, dire marines, parce qu'il ne peut pas avoir des gros trucs.
Oui. Alors, des espèces, on va dire, aquatiques pour l'instant. D'accord. Après, il est passé aux espèces plus marines. Voilà, et donc... Là, il s'est tourné vers la science. Il a eu donc des licences de sciences en biologie, géologie aussi, pas seulement biologie, hein, zoologie, etc. Et puis, il s'est orienté vers la Méditerranée, puisqu'il a fait sa thèse, donc il parle de la Méditerranée occidentale, c'était à Banyuls, où il a fait deux thèses. Alors, les deux thèses, c'est une, effectivement, sur les coralligènes et
les coraux,
voilà, c'est les ça. Coraux, voilà, mmh. C'est ça. Et puis sur les poliquettes.
Ah, alors
sa seconde thèse, ouais, les fameux poliquettes.
Alors, ce sont quoi les vers marins ? Enfin, pour caricaturer, c'est ça, les vers marins.
Oui,
on va dire ça.
Les vers marins. Ouais.
On va faire, on promet cette émission sur les poliquettes très détaillée. On va la faire au mois de mai, je promets. Voilà. Avec Gavin de Roual. D'accord.
Mais il s'occupait de beaucoup d'autres espèces, bien sûr, les bivalves. Il a alors Lucien Laubier, c'est lui qui a proposé, on va dire que ça comme ça, le terme d'aquaculture, parce qu'avant lui on appelait ça l'élevage des animaux marins, on appelait aquatique, on appelait ça l'aquiculture. Et puis il a proposé le mot aquaculture.
Ah oui, c'est mieux, en effet.
Parce que c'était comme l'américain aquaculture, et puis il avait trouvé dans les meilleurs dictionnaires, dit-il, plus de mots en aqua qu'en aqui. Voilà.
D'accord. Et donc on l'a chargé de travailler sur ce sujet-là, c'est ça ? Sur l'aquaculture ?
Alors, en fait, tout à fait, oui, c'est un peu ça, parce que quand, au début du CNEXO, donc il a été la première année en 1968, il était à Paris pendant un an, à mi-temps.
À partir de quand il était, c'est en 68 qu'il 68. A été embauché au CNEXO,
oui.
D'accord.
Et puis en 69, il est arrivé à Brest. Voilà, il a choisi de s'installer là, vraiment à Brest, pendant une dizaine d'années. Et donc à Paris, il était chargé de collaborer à la rédaction, c'était le début du CNEXO, d'un livre océan. Et là, il était chargé d'écrire la partie aquaculture, voilà, et puis aussi la chimie, mais bon, l'aquaculture. Et voilà, c'est à ce moment-là qu'il a proposé de passer au terme aquaculture.
Mais de fait, ça se pratiquait déjà, l'aquaculture, à l'époque.
Ah oui, bien sûr, oui. D'accord. Oui, mais il y a eu un gros développement après... Voilà, en 86, il a fait un article, un grand article, hein, qui faisait 6-8 pages, sur l'aquaculture. Et puis, il parlait de 6 millions de tonnes, maintenant on est à 100 millions de tonnes. Donc tout ça a vraiment grandement évolué, notamment avec la filiale du CNEXO, France Aquaculture, qui est devenue la filiale de l'Ifremer aussi, qui a développé l'aquaculture dans le monde entier.
Et donc c'est à Lucien Laubier qu'on doit un peu cette impulsion de l'aquaculture, on peut dire ça ?
Oui, en tout cas, il était en position, effectivement, de favoriser toute cette émergence de l'aquaculture et voilà, la création de la filiale. Il était tout à fait aux premières lignes, puisqu'il était chef du département scientifique à Brest. Et puis après, il était directeur de ce centre-là, de ce COB, Centre-Unis de Bretagne à Brest, voilà, jusqu'en 78. 78, qui est à peu près la date de création de France Aquaculture.
Ah oui, d'accord. Et il a travaillé sur quoi d'autres, les autres sujets scientifiques sur lesquels il a travaillé quand il était à l'IFREMER, c'était encore les poliquettes notamment Ou c'est lui, il a créé c'est lui qui a créé le département taxonomie aussi.
Alors à l'IFREMER, quand l'IFREMER était créé, en fait, Yves Sillard l'a nommé haut conseiller scientifique de l'IFREMER.
Ah oui, d'accord. Okay.
Donc là, il faisait plus de recherche de base, en fait,
non, j'allais
dire.
J'imagine.
Voilà. Par contre, il avait mais il était aux plus hautes fonctions scientifiques pour orienter les recherches scientifiques de l'institut.
Et qu'est-ce qu'il a donné alors comme orientation?
Bien, écoutez, je pense que dans sa spécialité, c'était effectivement l'aquaculture, la pêche. Donc, il a collaboré un livre sur la pêche. Et puis, toujours dans le domaine de l'écologie, avant de venir directeur des relations et de la coopération internationale. Donc, il a tenu beaucoup de hauts postes. Voilà, et là, il a favorisé aussi les collaborations avec l'étranger, tout pays étranger, les plus grands à des moins grands.
Et alors justement, dans le livre, il y a un chapitre assez important sur tout ce qui est batisca, engin sous-marin d'exploration. Et on lui doit quelque chose à ce niveau-là aussi ou...
Alors, il faut savoir que Lucien Laubier a fait 15 plongées à bord de... Et donc, je pensais justement, en préparant l'émission, là, que... Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres forcément qu'on fait, en tout cas, cette variété de plongée, parce qu'il a commencé sous la soucoupe du commandant Cousteau.
Voilà, qu'elle a
300 mètres. Après l'Archimède, parce qu'on n'a pas parlé de ton service national, il a fait le service national dans la marine auprès du commandant Houot, qui était le commandant des batiscafs. Voyez, on rejoint les batiscafs. Et donc là, il a plongé sur l'Archimède. Et donc, il travaillait en relation avec l'Archimède, puisque c'était le sujet du commandant Houot.
C'était à des fins de recherche scientifique quand il plongeait ? Ou c'était pour l'aventure ?
Appelez deux. Non, ni l'un ni l'autre, je crois que c'était plutôt des fins militaires, parce que tout ça se passe dans la marine nationale, en fait. Mmh. Voilà, donc c'était plutôt des orientations militaires. Alors bon, commandant Houot, un jour, il raconte qu'il avait mis un hameçon au-dessus de l'Archimède pour remonter un poisson, mais il dit que le poisson, il a effectivement ramené un poisson, mais il l'a pris quasiment en surface.
Ah bah.
Alors que le sous-marin était descendu presque peut-être à 10 000 mètres. Hein. L'Archimède descendait très, très profond.
Et donc, il a continué à descendre comme ça dans les grands fonds après ?
Voilà, et après, il a continué. Donc, il a fait des plongées sur les submersibles habités de l'Ifremer, donc Siana et Nautil, effectivement.
Donc, la
Donc, il y a dans le livre même un diplôme de plongée, voilà, qui avait été réalisé. Alors, je n'ai pas mis la signature, je peux la signaler. C'était Violaine Martin, donc une collègue de l'Ifremer, qui a... composer ce diplôme de plongée de Lucien Laubier.
Il y a beaucoup de documents visuels dans ce livre, je précise. Et d'ailleurs, le titre, c'est bien « La vie dans les grands fonds ». Parce qu'il y allait souvent, Lucien Laubier.
Oui, c'est vrai.
Et quelle était, alors, on voit se dessiner un peu sa personnalité, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de sa personnalité ?
Bah, écoutez, Lucien Laubier, alors moi, c'était mon responsable, mais N+2, à l'époque. Et donc c'était quelqu'un, avec une forte personnalité, bien sûr. Il se faisait respecter, naturellement, puisqu'il avait des hautes fonctions de direction. Parce qu'après l'Ifremer, en 92, alors il a été d'abord conseiller auprès de la science, de la technologie, auprès de la communauté européenne. Mais après, il était directeur du Centre océanographique de Marseille, puis... ensuite directeur de l'Institut océanographique, donc toujours des postes de direction. J'écris dans le livre que j'ai toujours eu des rapports francs et courtois avec lui. Il avait de l'empathie pour les autres, en tout cas. J'en ai bénéficié un moment.
Il était à l'écoute, vous diriez ?
Il était à l'écoute, oui. Il était à l'écoute des autres, bien sûr. Oui.
Donc en fait, en termes contemporains, on dirait que c'était un bon manager, un bon cadre.
Oui, c'était un bon manager, je pense, mais un bon chef, puisqu'il était dans ma hiérarchie et il a fait attention à moi à un moment où j'ai une petite difficulté. Ben, il m'a aidé, il m'a pris dans une salle, puis voilà, il a résolu le problème. Voilà. Donc oui, c'était quelqu'un en tout cas qui faisait attention aux autres.
Alors voilà. C'était quelqu'un de très curieux aussi et de un peu aventurier quand même, on peut le dire, j'imagine.
Voilà, l'aventurier, je sais pas, non, ce que je peux dire en plus, c'est qu'il était proche des journalistes. Et j'ai une petite anecdote, comme ça, je me trouvais un soir, il venait, soutenir un livre, justement, de Michel Glemarec, là, c'était à Océanopolis, et puis, nous avions à parler pour fixer un rendez-vous en fin d'année, justement, que je l'interviewe. Et en fait, avant qu'il puisse venir vers moi à la fin des exposés, les journalistes sont précipités sur lui. Voilà. Alors, il a dit « Attendez, j'ai quelque chose à voir avec Monsieur Chatry ». Alors, il les a laissés, il est venu, on a discuté, on a planifié notre rendez-vous. Puis après, il est retourné aux journalistes, alors ils sont retournés sur lui. Enfin, je ne pourrais pas oublier ça, c'était assez étonnant.
Il parlait bien. Est-ce qu'il était bon vulgarisateur, par exemple ?
Ah oui, très bien. Oui. Oui, il était professeur, bien sûr. Oui. Voilà, c'était un bel homme, bon, autant le dire. Hein, c'était un bel
charisme.
Homme. On le voit sur le. Faut acheter le livre là pour voir ça. Il y a une belle photo tout au début. On le voit dans la plus belle tenue.
C'est vrai qu'il a une certaine prestance.
Il a une certaine prestance. Mm-hmm. Une certaine prestance. Oui. Il était assez imposant en tout cas. Voilà. Et
Et vous évoquez beaucoup de personnes aussi dans ce livre, les gens qui ont travaillé avec Lucien Laubier, bien sûr.
Oui, parce que je voulais rendre hommage à Lucien Laubier, bien sûr, il m'a laissé l'interviewer pendant presque 2 heures, 116 minutes. Et puis, il m'a donné toutes ses archives qui étaient à l'Institut Océanographique quand j'ai commencé, moi, en 2007 en l'occurrence. Malheureusement, il est décédé en 2008 d'une maladie qu'il avait depuis un moment.
C'est lui qui a souhaité faire ce livre ou c'est vous enfin, qui...
Ah non, c'est une idée qui m'est venue. Non, pas du tout. Non. C'est au bout d'un moment, l'idée m'est venue de faire ça et de faire un livre, effectivement. Puisque j'avais toutes les archives, il a vu un parcours exceptionnel. Donc c'est venu beaucoup plus tard. Le livre, je l'ai fait il y a à peu près 2 ans. Mm-hmm. Il a mis un petit peu de temps à être édité. Voilà.
Et alors, parmi les personnes que vous citez... Oui,
c'était ça la question.
Oui, désolé. Voilà. Donc,
alors, c'était non seulement lui rendre hommage, mais rendre hommage aussi à tout un tas de collègues qui sont partis, bien sûr. Et notamment, j'ai profité de la campagne Nord-Atlante pour citer nombreuses personnes qui étaient sur la campagne Nord-Atlante et dont beaucoup ont disparu. Alors, je ne sais pas si je dois les citer ici, mais bon...
Qu'est-ce que c'était, la campagne Nord-Atlante ?
Nord-Atlante, elle a de spécial que c'était la première campagne, une des premières, vraiment toute première campagne du CNEXO, sur le Jean Charcot, navire Jean Charcot, dans l'Atlantique Nord. Voilà, et donc, où j'ai cité tout à l'heure, donc Lucien Laubier et Xavier Le Pichon ont été tous les deux chefs de mission. Mais il y avait de nombreux collègues avec qui j'ai travaillé plus tard et malheureusement ils sont disparus. Alors, je pensais à Yann Kéranflet qui était administrateur unique de Génavire, commandant Madec, beaucoup des... Alors il est commandant de bateau bien sûr, mais aussi les collègues scientifiques, Bertrand Sichler qui malheureusement nous a quittés l'année dernière, qui était spécialiste de magnétisme. Voilà, et,
la campagne Nord-Atlante, elle était destinée à une exploration généraliste de l'océan ou il y avait quand même des missions précises?
Oui, il y avait des missions précises, tout à fait, dans la mer du Labrador, je crois, et puis l'Atlantique Nord.
Et c'était pour étudier quoi, en particulier? Bon. Joker.
C'était des missions Joker, surtout géologiques à l'époque, surtout géologiques et
plutôt les fonds marins, en fait. C'est toujours les fonds marins, en fait.
Ah oui, c'était les fonds marins, oui, parce qu'il y a eu d'autres campagnes, il y a eu des campagnes sur de nombreux thèmes, bien sûr, l'hydrologie, autre chose. Mais là, on était vraiment sur les géosciences.
Ok. Et il y a aussi des femmes, quand même, quelques-unes, des scientifiques qui ont travaillé avec Lucien Laubier. Là, je vois, par exemple, Marie-Louise Faure. Alors, elle est spécialiste des... Je ne sais pas comment le prononcer. Kaitognathes.
Les Kaitognathes. Mais oui. Alors, Marie-Louise Faure, bon, c'était la génération un petit peu avant, quand même. Même si... Elle est décédée bien après Lucien Laubier en 2015, mais c'était une génération un petit peu avant qui... Elle ne faisait pas partie du Comexo, mais elle participait à des réunions du Comexo.
Comexo, c'était avant le CNEXO. Avant le CNEXO, ouais,
voilà.
Ça. Ouais.
Et puis surtout Myriam Sibuet. Myriam Sibuet, c'était une proche collaboratrice de Lucien Laubier qui nous a quittés aussi malheureusement en 2022.
Et elle, c'était les polychètes, non ?
Aussi, oui, aussi, bien sûr. Oui.
Une biologiste,
aussi.
Quoi.
Oui.
Vraiment, oui, oui. Et donc en fait, c'est donc ses fonctions politiques. En fait, après, il est allé sur le Pacifique. C'est à la fin qu'il est allé étudier le Pacifique, c'est ça ?
Alors le Pacifique, en fait, ce qui est écrit dans le livre, c'est qu'il était un peu à l'origine. On est venu lui demander des recommandations quand le Centre du Pacifique était créé.
Donc voilà. En quelle année ?
Et donc c'est en 71. Ouais. Ah, il a reçu une note, c'est Jean de Chazot qui était chargé d'organiser cette création du Centre du Pacifique, donc à Tahiti, celui après ce qu'il le Verao. Et donc les collègues sont arrivés en septembre 72, en réalité, pour démarrer ce centre océanologique du Pacifique à Tahiti, septembre 72.
Et lui, il a aidé, en fait.
Lui, il a aidé à la conception, il a conseillé sur ce qu'il fallait faire, les espèces de crevettes, les Penaeus, Japonicus, Penaeus, Monodon et d'autres. Voilà, et puis, comme j'allais dire que les espèces ont changé depuis, bon, ça évolue après, mais voilà, c'est l'aquaculture tropicale.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire, en fait, finalement, pour résumer de ce que l'océanographie, l'océanologie française lui doivent à Lucien Laubier ?
Bien, écoutez, effectivement, il était actif dans le domaine de l'écologie marine, de la biologie, vous l'avez dit, des bâtisses CAF, parce qu'il était quand même aux premières lignes, il a beaucoup plongé, mais il s'intéressait aussi à tout ça, à faire évoluer ces engins comme Siana, qui au début ne pouvait remonter que des sédiments, et grâce à lui, disons qu'il a œuvré pour essayer de faire en sorte qu'on remonte aussi des espèces biologiques, pas remonter que des cailloux. Du fond de la mer.
Du vivant.
Donc s'il était là, s'il m'entendait, il serait d'accord avec ça, en fin de sa vie était tournée vraiment vers la biologie, vers les espèces, l'écologie, les écosystèmes. L'écosystème, bien sûr, était grand spécialiste des écosystèmes près des sources hydrothermales, puisque ça grouille de crabes, de poissons, de crevettes, de crustacés, etc. Voilà, c'était ça. Pour moi, ce qui restera, s'il y a un dernier mot, c'est vraiment le grand spécialiste des sources hydrothermales qui a été... C'est pour ça qu'il était projet journaliste, mais médiatisé, c'était très, très médiatique, très médiatisé. Des crabes blancs, tout un tas de choses, des poissons blancs, etc. Des modioles. Modioles, c'est des grosses moules un peu brunes, voilà, qui se trouvent au fond de
l'océan.
Les vers Riftia, oui. On en trouve dans le livre. Ou des vers de Pompéi. Il faut lire le livre, aller voir. Il y a des belles photos dans le livre de ce fer de Pompéi, Riftia, sur des grands tubes. On dit vestimentifères, des grands tubes rouges qui sont au fond de l'océan. C'est étonnant, on ne va pas trouver ça ailleurs. Il faut aller sur les sources hydrothermales, sous-marines.
Mais nous irons grâce au livre. Gilles Chatry, donc vous êtes l'auteur de Biologiste de la mer, Lucien Laubier, La vie dans les grands fonds. C'est édité chez Locus Solus. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci beaucoup.